vous propose de commencer nos travaux. Tous les élus ne sont pas arrivés, mais pour les derniers d'entre eux ne devraient pas tarder. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Hélène Perrin sera représentée par William Richard. Hélène de Villiers représentée par Jonathan Rodriguez. Elle devrait arriver en cours de conseil. Idem pour Édouard Rabon qui arrivera en cours de conseil. Je pense qu'il est retenu par les vendanges. Il est représenté en attendant par Christine Mazzi. Astrid Tussaud sera représentée par Joachim Verdier. Catherine Crozat sera représentée par Marie-Claire Bilbord. Michel Brixy sera représenté par Rémi Grand. Mauricette Tagnus représentée par Claude Maréchal. Jacques Fromm représenté par Abida Sharif. Et Magali Carbonel représentée par Christian de Mongin. Nomination d'un secrétaire de séance. Est-ce que... je vous invite à désigner un secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. Si je demande qui est le plus jeune, tout le monde va lever le doigt. Non, mais tu rêves, Pascal, quand même. On peut toujours tenter le coup.
Tenter le rêve.
Ah, c'est moi. Oh. Putain, ça faisait une éternité que je l'avais.
Je sais pas, monsieur Durand-Soy. Quelle année?
Je vais vous dire.
Comment? Oh, vous avez encore un âge où on peut l'avouer. 74?
75.
Ben, je crois que c'est Benoît Moitié. 75.
Putain, ça faisait au moins 10 ans que je
pensais. Non, Candide.
Je crois que c'est pas moi. Non, c'est Benoît.
Benoît Moitié.
C'est Benoît.
Donc, je vous propose donc de désigner Benoît Moitié comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Je pense que Jonathan Rodriguez ne va pas tarder à arriver, mais ça l'apprendra à l'arrivée en retard. Il sera plus le. Il perd son titre. Je vous propose de passer au rapport numéro 2, transformation en communauté d'agglomération, modification statutaire. Comme vous le savez, mes chers collègues, et nous en avons délibéré au sein de la communauté de communes, le schéma départemental de coopération intercommunale propose la création d'un établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des deux communautés de communes, Épernay-Pays de Champagne d'un côté, Région de Vertu de l'autre. À la suite d'un important travail d'analyse des compétences et d'une étude financière conduite au cours des derniers mois, il est envisagé la transformation en communauté d'agglomération de ce nouvel ensemble. Les conditions de population étant d'ores et déjà remplies, il convient de modifier les statuts afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires prévues par la loi pour cette catégorie d'EPCI et d'accepter la transformation en communauté d'agglomération à compter du 1er janvier 2017. Le Conseil communautaire a décidé lors de sa séance du 12 septembre dernier de se doter des deux compétences suivantes, équilibre social de l'habitat, politique de la ville, et de transformer la catégorie en communauté d'agglomération. Je vous propose donc d'émettre un avis favorable à ces deux évolutions qui sont pertinentes à la fois pour les communes et les populations concernées. Je reviens d'un mot sur le débat que nous avons au Conseil communautaire qui s'est traduit par une adoption à une très large majorité puisque seule de mémoire la voix de Mme Perrin manquait. Je vous informe en même temps que côté Vertu, il y a eu 3 abstentions et sinon la délibération est passée à l'unanimité. Je vous rappelle qu'il y avait 2 conditions pour passer en communauté d'agglomération. La première, c'est la condition démographique, c'est-à-dire qu'il faut au minimum 50 000 habitants. En l'occurrence, nous sommes à 50 532 de mémoire habitants, donc cette condition est satisfaite. Et il fallait, pour la deuxième condition, que les compétences de la future communauté d'agglomération soient conformes à la loi. Pour ce faire, il a été décidé de transférer 2 compétences, équilibre social de l'habitat et politique de la ville, à la communauté d'agglomération. Évidemment, ce transfert de compétences, puisqu'il s'agit d'un transfert de compétences intervenant à la date du 1er janvier prochain, sera compensé intégralement, c'est-à-dire que les moyens que la ville consacrait à cette compétence seront transférés à la communauté de communes, de sorte que cette nouvelle compétence sera neutre pour l'année 2017, pour la communauté de communes et pour les années suivantes. Ensuite, c'est évidemment l'évolution de cet éventuel service qui pourrait être à la charge de la communauté d'agglomération. Donc, cela a fait l'objet d'un long débat et je pense qu'il faut resituer cette délibération dans l'analyse que nous avons fait ensemble de la situation. Je vous renvoie à la réunion que nous avions eue à Vertu début septembre de mémoire. où nous avions exposé tous les avantages que notre territoire, au sens large, c'est-à-dire au sens du périmètre confondu des deux communautés de communes, pouvait avoir à basculer sur le statut de communauté d'agglomération. Je rappelle également que toutes les communautés de communes de plus de 50 000 habitants en France sont des communautés d'agglomération parce qu'elles bénéficient d'un certain nombre d'avantages, tant sur le plan des dotations de l'État que dans le cadre de contrats qu'elles peuvent négocier avec des autorités comme les départements ou comme les régions. Et de toute évidence, ces arguments ont convaincu l'immense majorité des élus de notre territoire. Donc c'est une évolution assez logique. Je rappelle que l'État a souhaité accroître la taille moyenne des communautés de communes en passant ces communautés de communes à un seuil minimal de 15 000 habitants. On a donc de moins en moins d'intercommunautés sur notre territoire national et donc statistiquement de plus en plus de communautés d'agglomération. Je crois que ce sera le cas de trois nouvelles agglomérations à l'échelle de la région Grand Est qui vont voir le jour grâce à cette nouvelle vague d'intercommunalité issue très directement des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale. Voilà ce que je souhaitais rappeler en introduction de l'examen de ce rapport. Y a-t-il des questions sur ce point ? Monsieur Angers.
Oui, monsieur le maire, chers collègues. J'ai voté, comme vous l'avez annoncé, cette délibération en conseil communautaire. Donc je m'inscrirai dans la même démarche ce soir. Hein, donc il n'y a pas de changement de position de mon côté. Néanmoins, lors du conseil communautaire, j'avais posé une question sur les assurances que l'on pouvait avoir quant au maintien d'une dotation globale de fonctionnement qui soit affirmée avec plus d'un million d'euros, je crois, par rapport à une situation en communauté de communes. Bon, la réponse que vous m'aviez faite alors m'a à peine satisfait, donc j'ai un petit peu poursuivi mes lectures dans ce domaine, et notamment dans le dernier courrier des maires et des élus locaux. Il y a quand même une petite crainte qui est émise sur cette question-là, dont je voulais vous faire part. Je chausse mes lunettes. Donc, à noter enfin que des parlementaires soulèvent un défi important pour les EPCI, sans pour autant y apporter de solution à ce jour. À l'origine de l'impasse, les 28 communautés d'agglomération, devenues en 2016 communautés urbaines et métropoles, donc qui ont changé de catégorie. Le sens de l'histoire, ou du moins celui des lois MAPAM et NOTRe, encourage le passage des EPCI au statut supérieur. Or, ce mouvement n'est pas sans produire des impacts considérables, selon le sénateur Claude Rénal. Je ne sais pas de quel bord politique il est, puisque la vocation de ce document n'est pas d'épouser une étiquette politique, et c'est un document technique. Sur celle, restée simple communauté d'agglomération, d'autant plus dans une enveloppe de dotation à la baisse depuis 2014. Ainsi, l'enveloppe dédiée aux communautés urbaines et métropoles prévoit 60 euros par habitant contre 45 euros pour les communautés d'agglomération. Mécaniquement, l'enveloppe des communautés d'agglomération a donc fortement diminué de plus de 15% en 2016. Donc je vous passe la suite de l'article, mais donc il y a bien un phénomène qui fait que mécaniquement il y a une aspiration des crédits vers les entités les plus importantes, d'où ma question quand même sur l'assurance. Ça sera certainement mieux que si nous étions restés par définition en communauté de communes, mais c'est quand même un aspect sur lequel, à mon avis, il faut être vigilant. J'ai eu l'occasion de lire d'autres articles sur des collectivités qui, un peu partout ailleurs en France, étaient face à la même situation que nous. Et c'est des sujets qui interpellent. Donc mon propos ici est de mettre en garde et d'être assez affirmatif sur ce que l'on souhaite faire là-dedans. Et puis permettez-moi quand même d'exercer le deuxième volet de la réflexion que j'avais fait lors de ce conseil communautaire. C'est que effectivement, pour l'instant, pour cette année, l'effet baisse des dotations globales de fonctionnement a été un peu gelé de la part du gouvernement. Vous nous aviez, au cours des séances de vœux et à multiples reprises, fait valoir l'effet indésirable de l'action de l'État vis-à-vis des collectivités dans ce domaine. Moi, j'ai en tête particulièrement un candidat à la primaire de la droite et du centre qui n'a pas arrêté quand même de signifier qu'il faudrait que les collectivités territoriales fassent encore plus d'efforts qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Donc là aussi, méfions-nous dans le chemin sur lequel nous sommes aujourd'hui lancés de veiller à ce que les crédits qui nous étaient proposés ou suggérés puissent être obtenus en fin de course.
Alors, effectivement, je ne suis pas en mesure de vous apporter des éléments certains, puisque, comme vous l'indiquez, c'est une crainte aujourd'hui des collectivités locales dans leur ensemble. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tout le monde a intérêt à choisir un statut plus intégré que celui qu'il avait avant. Ceux qui n'étaient pas hier en communauté de communes ont des incitations pour passer en communauté de communes. Ceux qui étaient en communauté de communes ont des incitations à passer en communauté d'agglomération. Ceux qui étaient en communauté d'agglomération ont intérêt à passer en communauté urbaine. Et ceux qui étaient en communauté urbaine ont intérêt à passer en communauté en métropole. Donc tout ça pousse vers le haut et dans un processus d'intégration l'ensemble des EPCI. Et ça suscite évidemment des inquiétudes. Pour moi, elles sont de deux ordres. Il y a évidemment les conséquences sur l'enveloppe dédiée aux communautés d'agglomération. Mais je peux vous assurer que tous les présidents d'agglomération de France, quelle que soit leur étiquette politique, vont se bagarrer pour obtenir que l'évolution des métropoles ne se fasse pas au détriment des communautés d'agglomération. Première réponse. Deuxième élément qui me semble important, c'est que, j'allais dire, ce serait contradictoire que le gouvernement pousse l'ensemble des collectivités à adopter des statuts plus intégratifs ou intégrants, c'est-à-dire avoir à la fois des coefficients d'intégration fiscaux plus élevés au niveau de l'intercommunalité et adopter de plus en plus des communautés de communes ou d'agglomérations de plus en plus intégrées si en même temps on vient retirer l'intérêt de cette mesure. Alors l'élément, la troisième interrogation que nous pouvons avoir, c'est la réforme de la DGF qui est normalement prévue, qui était normalement prévue dans la loi de finances 2015, qui a été annoncé à l'époque comme repoussé à 2016. Qu'en sera-t-il ? Bon, il est trop tôt pour le dire, puisque la discussion de la loi de finances n'a pas encore commencé. Pour l'instant, nous n'avons pas les éléments de cette loi de finances. Mais y aura-t-il ou pas la réforme de la DGF dedans ? Ou fera-t-elle l'objet, comme l'ont souhaité de très nombreux parlementaires, d'un examen spécifique en dehors de la loi de finances ? Parce que ça remet en cause beaucoup de choses dans la relation entre l'État et les collectivités locales. Donc, aujourd'hui, alors en plus, on est dans une année préélectorale où, évidemment, personne, et à droite comme à gauche, n'est totalement blanc dans la mesure où, effectivement, tout le monde, les propos des uns comme des autres peuvent être sujets à interprétation. S'agit-il de propos purement électoraux ou s'agit-il de propos qui fonderont les réformes de demain ? Je pense que vous comme moi, nous n'en savons rien. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a aujourd'hui... Il y a aujourd'hui une vigilance à exercer sur l'évolution de ces dotations. Pour autant, comme vous l'avez dit, et je vous rejoins totalement sur ce point, de toute façon, nous avons encore bien des avantages à passer en communauté d'agglomération plutôt que de rester en communauté de communes. Maintenant, à nous d'exercer la vigilance comme le font toutes les communautés d'agglomération pour qu'évidemment, ces avantages ne fondent pas comme neige au soleil, auquel cas... nous serions en partie déçus par rapport à ce que nous attendions. Dernier élément d'information, Monsieur Huette, notre consultant, nous a indiqué qu'il avait les chiffres qu'il avait avancés étaient des chiffres qu'il avait probablement un peu minimisés par sécurité. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que les gains escomptés soient plus importants que ceux annoncés, je l'espère évidemment. Si au bout du compte nous avons ce qu'il nous a indiqué, ce sera déjà une satisfaction. Mais en même temps, et je pense que vous en conviendrez, on ne fait pas uniquement une communauté d'agglomération pour grappiller quelques centaines de milliers d'euros par-ci par-là. Il y a derrière ça, il doit y avoir derrière ça une ambition de territoire. Et c'est évidemment c'est l'expression de cette ambition de territoire que nous devrons avant tout privilégier dans les mois et les années qui viennent, parce que se réunir pour des raisons fiscales ou pour des raisons de dotation ou pour des raisons d'économie sur le fonds de péréquation, ça peut s'expliquer, mais très objectivement parlant, je pense que les habitants du territoire sont en droit d'attendre autre chose des élus locaux, à savoir l'expression d'une ambition, c'est-à-dire d'un projet politique pour ce nouveau territoire dans un certain nombre de domaines, domaine économique, domaine touristique, dans le domaine de l'équipement de nos collectivités, puisque, comme vous le savez, nos communautés de communes ont des cartes à jouer dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des réseaux, dans le domaine de l'aménagement du territoire, de ce futur périmètre. Oui.
Une autre remarque, sans incidence sur mon choix. Là, il est question des compétences qu'il nous faut transférer vers la communauté d'agglomération pour avoir cette entité. Lors des débats initiaux sur la réforme territoriale et sur l'activité de la commission départementale, lorsqu'il était question de la venue de la communauté de communes de Vertu, nous avions fait des remarques sur les distorsions de compétences qui étaient aujourd'hui les nôtres. Et de mémoire, Vertu, il y avait en particulier la compétence scolaire que nous n'avions pas au niveau de la communauté de communes d'Épernay. D'après les documentations que j'ai pu compulser, donc une compétence peut être partielle sur le territoire. Donc aujourd'hui, quelle est
notamment à l'occasion des fusions de communautés, parce qu'on peut avoir des communautés qui avaient des compétences différentes. Et autrefois, si vous voulez, la règle qui existait autrefois était la règle des blocs de compétences. Cette règle a été un obstacle sur beaucoup de territoires. Parce que des territoires qui étaient amenés à fusionner pouvaient avoir l'envie d'avoir cette compétence sur une partie de l'ancien territoire et pouvaient avoir l'envie de ne pas l'avoir sur l'autre partie. Donc les règles se sont assouplies en la matière, a fortiori lorsqu'il s'agit de compétences optionnelles. Et la compétence scolaire ne fait pas partie des compétences obligatoires d'une communauté d'agglomération. Donc pour répondre très directement sur ce point, nous aurons à prendre la compétence scolaire, puisque nous en avons pris l'engagement au niveau de la communauté de communes d'Épernay, sur la partie du périmètre qui constitue l'actuel CCRV. La question qui va nous être posée dans les 2 ans qui viennent, c'est faut-il l'étendre au reste de notre territoire ? Mais nous avons, de par la loi, 2 ans pour le décider. Donc la question pouvait se poser notamment pour le groupement scolaire de Grove, Grove, Mancy, Morangy, Molin, enfin il y a 5 ou 6 communes. J'ai très directement proposé, posé la question au président de ce groupement scolaire, le maire de Grove, bon, qui m'a dit qu'il allait consulter les élus concernés par ce syndicat intercommunal et qu'il reviendrait vers nous. Mais j'allais dire, où on peut simplement prendre la compétence scolaire pour le périmètre de l'actuel CCRV, ou on peut l'étendre à un autre périmètre. Mais ça, ce choix, nous n'avons pas à le faire pour le 1er janvier prochain. Nous avons 2 ans à partir du 1er janvier prochain. Pour nous positionner définitivement.
D'accord.
Donc la question reviendra sur le tapis, mais effectivement, pour l'instant, elle n'est pas liée à la transformation en communauté d'agglomération.
D'accord.
D'autres questions ? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Avis contraire ? 2 voix contraires. Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Christine Mazzi, provision pour risque juridique.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. En application de la réglementation en vigueur, je vous invite à constituer une provision à hauteur de 39 475 euros pour couvrir les risques juridiques qui pourraient résulter des dossiers contentieux qui sont mentionnés dans le rapport en votre possession.
Alors, il s'agit évidemment d'une provision qu'on a tous les ans, puisque ça... c'est destiné à couvrir les risques potentiels ouverts par des actions ou que la ville intente ou que des particuliers ou des agents intentent contre la ville. Et vous avez de ce point de vue un certain nombre d'éléments concernant ces différents contentieux. Des questions ? Pas de questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons à la délibération 3B. Toujours Christine Mazzi.
Donc cette délibération concerne le rapport annuel concernant la convention de concession pour la fourrière automobile. Je vous invite à prendre acte du rapport annuel de la fourrière automobile qui est établi par la SARL Pontalier et qui est relatif à l'exercice 2015.
Merci. Quelques informations qui peuvent vous intéresser. 145 véhicules ont été pris en charge par la fourrière en 2015 contre 163 en 2014, donc une baisse. Sur les 145 véhicules, 34 véhicules n'ont pas été réclamés. Il y en avait 32 en 2014. Je rappelle que la ville se substitue financièrement aux propriétaires des véhicules non réclamés. Et ainsi, 4 041,41 € ont été versés par la ville au concessionnaire qui, lui, a versé une redevance de 555 €. Des questions ? Oui, monsieur Lefebvre.
Oui, nous l'avons redit en commission. Nous attendons toujours le rapport pour le chalet de l'Arcanière concernant les 6 mois de l'année 2015.
Oui, il y a eu une mise en demeure qui a été adressée par la ville à l'association. Donc, elle a été cette mise en demeure adressée avant les vacances et réitérée à la rentrée. Donc, j'espère qu'on aura avant la fin de l'année ces éléments. Et évidemment, dès que nous les aurons, ils vous seront communiqués. Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3C, 1, 2 et 3. Ça concerne des groupements de commandes. Christine Mazzi.
Oui, donc il s'agit de trois groupements de commandes. Un concernant la ville, le CCAS, la CCEPC et toutes les communes membres de l'intercommunalité qui seraient volontaires pour la fourniture de gaz. Le deuxième groupement de commandes concerne la fourniture de produits d'entretien, concerne également la ville, le CCAS, la CCEPC et toutes communes membres de l'intercommunalité. Et enfin, le troisième groupement de commandes concerne également la ville, le CCAS et toutes communes membres de l'intercommunalité qui seraient volontaires pour l'achat de prestations de transport en bus et en car. Concernant ce troisième groupement de commandes, il convient de désigner, puisqu'il y aura création d'une commission ad hoc, il convient donc de désigner parmi les membres de la CAO de la ville d'Épernay un représentant et son suppléant qui participeront donc à cette commission ad hoc pour l'achat de prestations de transport en bus. Donc, concernant les membres de la commission d'appel d'offres de la ville d'Épernay, deux candidatures vous sont proposées. Monsieur le maire nous a proposé deux candidatures, à savoir un membre titulaire, en ce qui ce serait moi, donc, et puis membre suppléant, Magali Carbonel. Il y a également au sein de cette commission d'appel d'offres de la ville d'Épernay d'autres candidatures possibles. Donc, monsieur Richard ou monsieur Angers, si vous souhaitez candidater pour en tant que membre de cette commission ad hoc. N'est-ce pas ?
Voilà. Alors, donc, combien de votes c'est...
Est-ce que l'on peut voter à main levée ou
Oui, je pense. Pas d'opposition à ce qu'on vote à main levée. J'avais une question. Oui, alors on va peut-être déjà faire les questions.
Oui. Allez-y. C'était de savoir à peu près, grosso modo, quelle était l'importance des besoins en transport pour la ville en car.
Je ne sais pas s'ils ont été, Magali Carbonel n'est pas là ce soir, s'ils ont été identifiés, mais c'est principalement des transports de scolaires vers la médiathèque, ça peut être des transports, des sorties scolaires, des centres sociaux. Comment ?
Ce n'est pas les bus Macron.
Ah non, ce n'est pas les bus Macron. Ça peut être pour des sorties de seniors.
Ça va pas communautaire essentiellement.
Oui, c'est souvent des non, pas forcément intra-communautaire, parce que ça peut parfois aller dans la montagne de Reims. Enfin, c'est en général pas très loin. Autrefois, il y avait Cometreuil, il y avait des sites comme cela. Donc, ça peut être des sites de proximité, mais pour des sorties scolaires à la campagne. On pourra vous faire parvenir à peu près le... Donc, si je comprends bien, on a plusieurs candidats pour les titulaires et le poste de suppléant. Monsieur Richard, vous êtes candidat pour le poste de titulaire ou de suppléant ? Titulaire. Et c'est Christine Mazzi qui est candidate de l'autre côté. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un vote à bulletin secret ? Personne ne le demande. Alors, donc, je vais vous inviter à lever le bras. Pour William Richard, combien de voix pour William Richard ? 4. Pour Christine Mazzi. Il y a quelqu'un qui compte ? C'est bon ? Oui, alors ceux qui ont des pouvoirs lèvent deux fois la main, hein, parce que j'ai donné les pouvoirs tout à l'heure. Pour le poste de suppléant, y a-t-il un autre candidat ? Monsieur Angier, candidat ? Et pour la candidature titulaire, je ne sais plus le nom en tête.
C'est Magali Carbonel.
Magali Carbonel. Donc pour Jean-Paul Angers, 4. Pour Magali Carbonel, c'est bon ? Et il y a les abstentions qui sont prises en compte, évidemment. On a bien vu que le groupe Front National n'avait pas ni voté pour l'un ni pour l'autre. Voilà. C'est abstention ou c'est non-participation au vote ?
Non, c'est rien, ils ont voté pour.
Abstention ? Bien, le rapport est donc adopté. Nous passons au rapport suivant. Oui, oui, c'est les mêmes candidats, je pense. Nous passons au rapport 3D. Christine Mazzi.
Cette délibération concerne la modification du tableau des effectifs villes des emplois permanents. Comme vous le savez, en fonction des besoins et des recrutements, nous sommes amenés au cours de l'année à ouvrir un certain nombre de postes. Donc, en l'occurrence, il s'agit de créer un poste de directeur commerce et stationnement à temps complet, un poste de chargé de mission mécénat à temps complet et deux postes d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet.
Alors, il faut qu'on revote sur la délibe d'avant, parce qu'en fait, on a voté pour les candidats, mais on n'a pas voté sur la délibe dans sa globalité. Donc, sur le groupement de commandes, dans son principe et dans sa traduction, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, la délibération est adoptée. Par contre, sur les votes individuels, on reprend le résultat tout à l'heure. Pardonnez-moi. Nous passons donc à l'examen de la délibération 3D qui vient d'être exposée à l'instant. Y a-t-il des questions ? Pas de questions particulières ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3E. Christine Mazzi, ça concerne la mise à disposition d'un salarié de droit privé au profit de la ville d'Épernay.
Je vous invite à approuver la convention entre la ville d'Épernay et l'Office de tourisme Épernay-Pays de Champagne. Par cette convention, donc, l'Office de tourisme met à disposition de la ville à raison de 10 heures par semaine son directeur.
Alors, c'est un rapport que nous avions examiné en son temps. Et là, simplement, il s'agit d'un renouvellement d'une convention qui liait la ville à l'Office du tourisme et qui doit dater de 2011, de mémoire, sachant que le directeur de l'Office du tourisme exerce également un certain nombre de responsabilités pour le compte de la ville, notamment la démarche visant à obtenir l'obtention du titre de station classée tourisme. Est-ce que Benoît Mathieu peut nous en dire un mot ?
Avant d'en dire un mot, je voudrais préciser que je ne prends pas part au vote, puisque je préside cet office. En l'occurrence, notre dossier station de tourisme pourra vraisemblablement être déposé dans les semaines à venir. Je pense que le prochain conseil municipal devrait nous permettre d'étudier une délibération en ce sens. Puisque, si vous vous en rappelez, ou si cela ne vous dit rien, je me permets de vous rafraîchir la mémoire. En l'occurrence, nous devions satisfaire un certain nombre de critères. L'obtention d'un label qualité tourisme pour notre office, et en l'occurrence, ce label nous a été décerné il y a quelques mois maintenant. Nous devions également avoir un label tourisme et handicap. Ce fut le cas par le passé, en l'occurrence c'était en 2014, Et nous devions également obtenir le classement de notre office en catégorie 1. C'est chose faite depuis hier, puisqu'en l'occurrence, un arrêté préfectoral a été pris en ce sens. Donc,
est-ce que tu peux rappeler simplement ce qu'est un office de catégorie 1? Parce que autrefois, il y avait des étoiles qui étaient...
Voilà. Donc, en fait, le système est inversement proportionnel au système antérieur, puisque il y a encore quelques années, nous étions... il y avait une classification de 1 à 4 étoiles, enfin, sans étoiles, puis une labellisation progressive de 1 à 4, et 4, c'était donc le summum. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est différent. On est en... Sans aucune catégorie, ou alors catégorie 3 pour les offices les moins intégrés, catégorie 2 pour les offices de moyenne catégorie et catégorie 1 donc pour les offices qui doivent respecter le plus d'obligations. Et donc nous avons eu un débat interne au conseil d'administration au moment où justement cette réforme a été mise en œuvre. L'idée c'était de savoir si nous devions demander la catégorie 2 que nous aurions eu de facto puisque nous étions précédemment en 3 étoiles et le choix a été fait de ne pas demander d'inscription en catégorie 2 mais plutôt de déposer un dossier pour être en catégorie 1, ce qui impliquait de modifier quelque peu et nos services et la structuration de l'office de tourisme, la structuration à la fois fonctionnelle et en termes d'offres. Et donc, c'est ce qui a été décidé par le conseil d'administration. Et donc, il y a maintenant un peu plus d'un an et demi que Déborah Mirbel et Frédéric Nebout constituent les différents dossiers, donc qualité tourisme, label et handicap, et enfin ce dossier en catégorie 1. Et donc, depuis quelques jours, nous sommes donc dans un cercle très fermé, hein, puisque en région Champagne-Ardenne, nous rejoignons des offices prestigieux comme ceux de Reims ou de Troyes. Donc c'est pour nous une satisfaction. Au-delà de ce classement, qui nous ouvre aussi d'autres opportunités, à savoir donc le prochain dépôt de notre dossier station de tourisme, hein, puisque jusqu'alors nous étions classés commune touristique et nous ambitionnons de devenir station de tourisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de ces classements administratifs, de cette reconnaissance, on va dire, des pouvoirs publics, moi je vous invite à parcourir les réseaux sociaux et notamment des sites comme TripAdvisor. Vous verrez comment notre office de tourisme est perçu par les touristes français et étrangers. On a vraiment un taux de satisfaction, alors même que dans ces réseaux-là, je l'ai dit en commission la dernière fois, il y a plutôt l'envie chez certains de se défouler. On a vraiment un taux de satisfaction extrêmement important et là, pour le coup, on ne peut pas nous accuser de partialité ou de favoritisme, puisqu'en l'occurrence, ce n'est pas nous qui rédigeons les postes, ce sont bien les touristes qui découvrent nos locaux. J'en profite, Franck, c'est vrai que les locaux, l'agencement des locaux et la qualité de l'accueil reviennent vraiment souvent dans les postes qui nous sont adressés. Donc c'est vraiment pour nous, là aussi, une satisfaction. Et j'en profite pour remercier non seulement les administrateurs qui œuvrent au bon fonctionnement de la structure, mais aussi les collaborateurs, leurs directeurs et tous nos collaborateurs qui finalement font de notre office une structure de qualité et qui semble en tout cas répondre, mais nous n'en doutions pas nous, qui semble répondre véritablement aux attentes des touristes.
Merci. Des questions sur ce point, Marc Lefebvre.
Merci. Monsieur le maire, monsieur le président de l'Office de tourisme et premier adjoint, avant tout, je désirais que vous répondiez avec précision à mes questions et non globalement. D'abord, concernant la convention de 2011, quelle était l'indemnité versée par la ville au directeur de l'Office de tourisme? Quels ont été les frais de déplacement, les charges sociales, les frais professionnels, les avantages en nature? En commission, on m'a répondu qu'il n'y avait pas de charge sociale pour le versement d'indemnités. Alors pourquoi noter à l'article 4 de la Convention le versement de charges sociales? Quelle est la rémunération du directeur de l'Office de tourisme, sans compter cette indemnité? Y a-t-il encadrement de sa rémunération? Si oui, laquelle? Cette indemnité de 2 932 euros lui est-elle reversée intégralement ? Pourquoi ne pas lui verser directement avec l'accord de l'Office de tourisme ? Les dossiers de la ville sont confiés au directeur sont bien souvent les mêmes que ceux de l'Office de tourisme, par exemple le lien avec le comité régional de tourisme, avec l'agence départementale, avec le ICVC, etc. Cela constituerait donc une subvention déguisée. Dans les divers déplacements communs, à qui sont imputés les frais de déplacement, de restauration ? Pour ma part, je pense que qu'à l'embauche du directeur, vous lui avez promis une rémunération supplémentaire à ce qu'il ne pouvait prétendre, et donc c'est la ville qui supporte le coût. Avec 2 932 euros par mois, nous pourrions recruter un agent diplômé à temps complet. Cette indemnité est trop élevée pour 10 heures de travail par semaine. Je pense que 90% des agents de la ville ne gagnent pas ces 2 932 euros par mois. Pour moi, c'est scandaleux à l'heure où beaucoup de Sparnassiens ont des difficultés, à l'heure où vous dissertez sans cesse sur le désengagement de l'État et sur la participation des collectivités à combler la dette publique. À votre niveau, vous devriez faire preuve de sagesse dans les économies de notre ville. Selon moi, c'est partageant le travail et les responsabilités qui devrait être votre ligne de conduite. Merci.
Merci, Benoît.
Oui. Vas-y, je t'en prie.
Je voudrais simplement faire une réponse à M. Lefebvre par rapport à ce qui a été dit en commission finance. Il n'a pas, vous avez un petit peu déformé la réponse. Il vous a été précisé qu'effectivement, cette somme correspondait à une indemnité qui était versée en contrepartie qui correspondait à salaire, charges, etc. Donc, c'est bien compris au niveau du calcul de cette indemnité. Mais sur une indemnité, il n'y a pas de charge sociale. On soit bien d'accord. Alors, est-ce que mon propos est clair ?
Eh bien oui.
Ben bien sûr, il n'y a pas de charge
sociale.
Mais nous
les payons.
Mais cette
même.
Indemnité a été calculée de façon à prendre en compte le salaire chargé.
Merci Christine. Oui, pour compléter, vous évoquez le fait que le directeur de l'Office de tourisme d'Épernay Pays de Champagne et directeur de la en charge du tourisme à la ville d'Épernay auraient les mêmes missions. Non. Ce qui me laisse perplexe, c'est que finalement, vous êtes élu municipal, vous siégez dans la commission qui traite notamment des questions de tourisme, vous êtes au conseil d'administration de l'Office de tourisme, donc vous étiez à l'Office de tourisme. Et en l'occurrence, vous devriez justement. Vous êtes quasiment l'un des mieux placés, peut-être avec moi ou avec Candy, puisque nous sommes tous pour justement apprécier ce qui relève de la ville et de l'Office de tourisme. En l'occurrence, l'Office de tourisme n'a pour mission, mais elle est déjà importante, il a pour mission, un, d'informer les touristes, deux, de promouvoir effectivement notre destination, qui n'est pas seulement Épernay, mais je vous rappelle que notre office de tourisme a un rayonnement qui dépasse largement même le stade de la future communauté d'agglomération. Donc on a également des projets touristiques. Lorsque nous sommes interrogés dans le cadre du projet de musée, ou lorsque nous sommes amenés à participer à des opérations ou apporter notre réflexion à des projets. Il y a des projets qui concernent très directement l'Office de tourisme et d'autres pas du tout. Je vous ai parlé du classement en catégorie 1. Ça, c'est purement Office de tourisme. En revanche, la station de tourisme, ça relève bien évidemment que de la ville. Donc c'est, si vous voulez, bien la preuve qu'il y a à la fois du travail au niveau de la ville et au niveau de l'Office de tourisme. S'agissant de la rémunération, moi, je m'en suis jamais caché. On est aux alentours de 4 500 euros par mois. Ça n'a pas évolué depuis qu'il a été recruté. Je vous dis 4 500, je ne suis pas à l'euro près. Hein. Et en l'occurrence, ça, c'est une rémunération nette. D'accord ? Et si vous voulez avoir les charges sociales et les charges patronales, vous faites le calcul vous-même. Je vous laisse le soin de... Et vous impactez là-dessus les 2 932 euros qui sont bien charges sociales et patronale incluse. D'accord ? Simplement, l'indemnité, comme le disait Christine, cette indemnité, elle est versée en globalité. On ne fait pas la distinction. Il n'y a pas de ventilation dans l'indemnité, qui est d'ailleurs versée à l'office de tourisme et pas au directeur de l'office de tourisme. Sa rémunération, elle est bien et elle ne varie pas de 4 500. Alors, un peu plus maintenant parce qu'il y a la prime d'ancienneté. Mais en l'occurrence, dans les comptes budgétaires figure la masse salariale. Alors, effectivement, elle est globalisée à l'échelle de tous les collaborateurs, mais tout cela est parfaitement transparent. Donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Par ailleurs, vous évoquez des frais de déplacement, frais de restauration et autres. Il se trouve que lors du dernier conseil d'administration, l'un des tout derniers conseils d'administration, les administrateurs ont voté pour un encadrement des frais de restauration, mais ça ne s'applique pas seulement au directeur, mais à l'ensemble de l'équipe, puisque en l'occurrence, ça n'existait pas jusqu'à maintenant, et c'est à la demande de la trésorière, mais de manière à faire avancer les choses, c'est à la demande de notre trésorière qu'il y a eu un certain nombre de forfaits de voter, d'ailleurs comme on les connaît dans notre collectivité, dans nos collectivités locales. Donc il n'y a pas de difficulté. J'ajoute même qu'il a peut-être moins d'avantages que par le passé, puisque j'en suis certain, que précédemment il disposait d'une voiture qui était louée par l'office de tourisme, et que depuis peut-être 7-8 mois, il prend son véhicule personnel et se fait défrayer les kilométrages. Et tout cela n'est pas vérifié par le président que je suis, puisqu'il y aurait une sorte de gestion de fait, mais qu'en l'occurrence, c'est bien notre trésorière qui suit ça de manière extrêmement précise et quasiment, pas quotidiennement, mais de manière hebdomadaire.
En clair, si je résume, si j'ai bien compris, les 2932 euros sont compris dans sa rémunération entre 4 et 5 000 euros.
Alors,
ou c'est en plus ?
Je vais essayer d'être.
Oui, non, mais partiellement.
C'est intégré. Je vais essayer d'être encore plus clair. 4 500 euros correspond à une rémunération nette. Vous savez ce qu'est une rémunération nette. Ensuite, vous ajoutez pour le coût. À la charge de l'association, à ce salaire net, vous ajoutez les charges sociales et les charges patronales. Ça, c'est pour la colonne dépenses. Vous me suivez bien. Et dans la colonne recettes, vous avez 2932 fois le nombre de mois qu'il y a dans l'année, et cela vient participer, abonder la colonne recettes de l'association. Donc ce n'est pas 4005 et 2009,
c'est pas 2009,
c'est 4005 plus les charges sociales, charges patronales, on doit être en gros à 150% quand on fait le total.
Non, mais
donc dans les 2009,
il y a quelques années, ça m'a pas été précisé. Les 2009
que nous votons par mois sont bien votés au bénéfice de l'office de tourisme.
7000, il y a 3000, voilà. Pour faire simple.
Merci pour la leçon sur les charges patronales et autres. Merci beaucoup.
Pas d'autres questions sur le sujet ? Avis contraire ? 4 abstentions. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec la décision modificative numéro 3. Christine Mazzi.
Je vous propose d'approuver les virements suivants qui figurent dans le rapport qui vous a été transmis concernant donc le budget principal. Donc plusieurs inscriptions budgétaires vous sont proposées. 44 100 euros. Qui correspondent au refinancement de 2 emprunts qui avaient été souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces opérations sont bien sûr sans impact budgétaire puisque les dépenses d'investissement sont égales aux recettes d'investissement. Une autre inscription budgétaire proposée de 1 300 euros qui concerne la caution pour le logement de fonction de la directrice générale des services. Une provision également de 38 000 euros qui concerne 2 contentieux du personnel. 10 000 euros, il s'agit d'une subvention pour les actions qui sont menées par l'Office du tourisme, ainsi que 3 000 euros qui concernent le financement de la formation module ado qui a été dispensée en septembre par l'atelier des parents et compagnie.
Merci. Des questions ? Oui, monsieur.
Oui, à la séance du Conseil du 28 juin, donc, nous avons parlé de la renégociation de l'emprunt et d'une pénalité.
Deux emprunts, il s'agit de deux prêts qui ont été renégociés.
Ça ne correspond pas à la pénalité, ça ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, la pénalité n'apparaît pas puisque là, il s'agit.
Elle est à quel niveau ?
La pénalité, je ne saurais vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la renégociation de ces deux prêts offre un gain pour la collectivité d'un peu plus de 130 000 euros.
Voilà, parce qu'on devait m'envoyer...
Régler la pénalité.
On devait m'envoyer
la pénalité, je parle bien de gain.
M'envoyer le document là-dessus.
Non, une fois réglée la pénalité, le gain de la renégociation reste en la faveur de la ville pour 131 000 euros.
Un peu plus de 130 000 euros.
On pourra vous communiquer le montant de la pénalité, mais de toute façon, elle est largement compensée. Sinon... Ah ben, peut-être, mais on va le faire. D'autres questions ? Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3G concernant une admission en non-valeur. Christine Mazier.
Je vous invite à adopter la délibération suivante, qui est relative aux admissions en non-valeur. Je vous rappelle que ces admissions sont proposées par le comptable public lorsque l'ensemble des démarches et des procédures de recouvrement ont été épuisées. Néanmoins, je tiens à signaler qu'un recouvrement ultérieur de ces sommes est toujours possible.
Des questions ? Oui.
Là, donc en commission, nous avons appris que dans les faits, c'était un agent de la ville qui avait détourné de l'argent dans les
euros. Oui, il y a de ça plusieurs années. J'ai plus
maintenant,
la date.
C'est plus possible.
Il avait détourné de l'argent. Il a été sanctionné. Il a été radié des cadres de la fonction publique. Et malheureusement pour lui, il est décédé depuis. Et donc, il aurait fallu que la ville poursuive son enfant mineur pour le règlement de cette somme. Donc, autant dire que c'était peine perdue. C'est la raison pour laquelle nous proposons de passer en admission en non-valeur. Bon, à l'époque, l'affaire avait été éclaircie grâce à la sagacité de la police municipale. Toutes les poursuites ont été engagées. Il a été sanctionné. Il a été donc il a quitté les effectifs. Mais bon, malheureusement pour lui, il est mort d'un accident de moto peu de temps après. Et donc la question se posait de savoir s'il fallait, sur son enfant mineur, aller rechercher cette somme. Et on a estimé qu'évidemment, c'était pas souhaitable. Sachant qu'on n'avait pas de certitude de pouvoir un jour récupérer cette somme, évidemment.
Actuellement, pour les agents de la ville ne s'occupent plus de la gestion de la monnaie.
Ah si, si,
si, toujours.
Non, mais en l'occurrence, c'est une affaire ancienne, hein, mais c'est une affaire qui doit dater d'une dizaine d'années à peu près. Et non, c'était un agent qui avait prélevé de l'argent qu'il était chargé de collecter dans les parcs-maîtres, en l'occurrence, et qui a été condamné par la justice à nous indemniser. Bon, il se trouve qu'entre-temps, il est décédé. Des questions, Monsieur Durançois ou Monsieur Klein? Oui. Non, mais je me souviens très précisément de cette affaire parce que nous avions à l'époque des indices et puis avec un système de caméra, on a réussi à. Et je me souviens encore du chef de la police municipale qui est venu nous apporter la cassette. À l'époque, c'était encore des cassettes. Et nous avons pu voir effectivement comment l'agent procédait. Donc, il a été interpellé immédiatement par le service de police. Et. Bon, c'est rare, mais c'est arrivé. En l'occurrence, il a été confondu et j'allais dire, sanctionné de la manière la plus radicale qui soit, condamné par la justice. Et puis ensuite, dans sa vie privée, il a eu cet accident malheureux. Voilà, pas d'autres questions ? Avis contre ? Oui, M. Klein ?
Les 6 000 euros 13, ça correspond juste à ce cas-là ?
C'était la somme qui correspond. Oui, tout à fait. Il n'y a qu'un seul cas.
Il n'y a rien d'autre à côté.
Non. C'était la somme à laquelle il avait été condamné de restituer. Alors, avait-il volé plus ? C'était difficile à dire, puisque c'était par définition des pièces.
Mais
c'était les sommes qu'on a. Parce que, pour tout vous dire, à l'époque, ce monsieur donc prélevait des sommes dans les parcs-maîtres et faisait des dépôts d'espèces sur son compte en banque. Ce qui n'était pas forcément très malin, on ne va pas donner de. Et donc, on avait réussi à établir que le manque à gagner pour la ville était de cette somme. A-t-il été supérieur ? C'est impossible à dire. Hein, mais Non, il n'y avait pas d'autre créancier, en l'occurrence. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. 3H, Christine Mazzi.
L'article L1407 bis du Code général des impôts permet aux communes d'assujettir à la taxe d'habitation les logements qui sont vacants depuis plus de 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette taxe, qui est dénommée taxe d'habitation sur les logements vacants, ne s'applique qu'à la part communale. Je vous propose donc d'assujettir les logements vacants d'Épernay à la taxe d'habitation et de notifier cette décision aux services préfectoraux afin de prendre toutes les mesures nécessaires à l'institution de cette taxe.
Alors, je précise tout de suite que cette taxe ne touche pas tous les logements vacants, en l'occurrence les logements qui sont proposés à la location et qui n'ont pas preneur parce que, j'allais dire, le marché immobilier fait qu'on ne trouve pas tout de suite un preneur, ne sont pas concernés par cette taxe. Ce sont les logements qui sont vacants et qui ne sont pas mis sur le marché locatif et qui, pour certains d'entre eux, restent comme ça pendant 10, 5, 10, 15, 20, 30, 40 années. Il n'y en a pas très loin de chez M. Angers et de moi-même. Il y a une maison en face, un petit peu en face de chez vous à gauche, qui depuis au moins 25-30 ans est abandonnée. Et j'allais dire, d'abord, nuit aux voisins. Oui. Alors, je ne suis pas sûr, en l'occurrence, puisque le propriétaire est, semble-t-il, identifié, il doit y avoir une division, je pense.
C'est que quand il y a une déshérence.
Voilà. Quand il y a une déshérence, il y a 30 ans, effectivement. Mais en l'occurrence, ce sont des logements qui, d'abord, se dégradent, produisent parfois des nuisances chez le voisinage, et les deux voisins de ce logement, en l'occurrence, sont directement concernés par les nuisances. Et ce sont des logements qui sont souvent abandonnés et non mis sur le marché par les propriétaires. Évidemment, toute personne qui a un logement et qui le loue, même s'il n'est pas à l'instant T loué, ne subit pas l'application de cette taxe. L'objectif, c'est bien entendu de lutter contre la vacance des logements. Et pour votre information, des villes pas très lointaines comme Château-Thierry, comme Laon, ont voté cette taxe depuis plusieurs années parfois. Et au moment où on essaie de dynamiser le marché local, ou en tout cas d'inciter les propriétaires à ne pas laisser des logements se dégrader pendant des années et des années, parce que ça crée de la nuisance, ça crée parfois des arrêtés, ça nous amène parfois à prendre des arrêtés de péril, parce que des logements sont laissés à l'état d'abandon, et ensuite on a des corniches qui tombent, on a des toitures qui s'affaissent. C'est évidemment quelque chose qui a pour objectif d'inciter ces propriétaires à remettre sur le marché sous la forme qui leur convient. Ils peuvent vendre ces logements, ils peuvent les louer, ils peuvent les réhabiliter parfois, de façon à éviter d'être frappés par cette taxe. Voilà les pressions que je souhaitais vous apporter. Des questions? Monsieur Angers, monsieur Lefebvre.
Oui, monsieur le maire. Simplement, c'est presque pathétique, cette délibération. Parce que derrière, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un parc de 2000 logements sur la ville qui sont aujourd'hui effectivement inhabités, qui sont vacants. Alors certes, effectivement, il y en a un certain nombre qui ne sont plus en état d'être habités parce qu'il n'y a plus les commodités nécessaires. Il y en a d'autres qui, au-dessus des commerces, n'ont plus l'accès qui permet d'y aller. Mais je trouve que c'est quand même le résultat de ce que l'on dénonce régulièrement. C'est quand même une perte de vitesse de notre ville. Hein. 2000 logements vacants, c'est en fait une partie du différentiel entre les 30 000 habitants qu'il y avait hier dans cette ville et puis aujourd'hui les 23 000. Alors bon, on essaie de faire contre mauvaise fortune, bon cœur, en essayant de raccrocher quelques crédits. Moi, j'ai l'impression que toutes les politiques qui ont été menées quand même en termes d'habitat n'ont de sens que s'il y a un développement économique à côté. Aujourd'hui, on ne va pas dans ce sens-là. On met l'accent sur le développement touristique. Souhaitons que ça marche, mais ça ne nous permettra pas de compenser le déficit engrangé depuis un certain nombre d'années. Donc, délibération pathétique d'une ville en perte de vitesse démographique et qui essaye de se raccrocher aux branches au niveau des moyens pour récolter quelques crédits.
Alors bon, évidemment, je vous laisse la responsabilité de ces propos. En l'occurrence, une ville comme Château-Thierry qui voit sa population augmenter grâce à la proximité de la région parisienne et a également voté cette taxe. Donc ce n'est pas une question liée au gain ou à la perte d'habitation. La volonté, c'est effectivement de ne pas laisser de trop nombreux logements, que ce soit effectivement des appartements ou des maisons, et c'est en grande majorité des appartements à Épernay, vacants. Pour votre information, il y a effectivement, en 2015, il y avait 1997 logements vacants, donc pas loin de 2000 que vous évoquez, dont 1631 appartements. Donc c'est plutôt des appartements que des maisons. Et c'est vrai que ce qui est tout à fait regrettable, c'est qu'on a dans le même temps des personnes qui cherchent à venir habiter Épernay, qui cherchent des maisons. Elles sont très rares sur le marché immobilier, alors que de toute évidence, il y en a qui sont vacantes. Alors certes, il y a des travaux à entreprendre, mais c'est par la vacance prolongée que se dégrade toute une partie du patrimoine immobilier sparnassien. Et cette taxe fera peut-être réfléchir un certain nombre de personnes. Je pense notamment à des indivisions qui aujourd'hui perdurent pendant des dizaines d'années parfois, sans personne dans la maison, avec des biens qui se dégradent, avec des biens qui entraînent des dégradations, y compris sur le domaine public. Et je pense qu'il est de notre responsabilité à un moment ou à un autre de considérer que, en laissant des biens dépérir dans une ville, on contribue aussi à dégrader l'image de cette ville, en tout cas l'image d'une rue, d'un morceau de rue ou d'un quartier parfois, puisqu'on a des concentrations qui peuvent exister dans certains secteurs. Et je trouve qu'il est assez normal d'utiliser un outil législatif qui a été mis en place et qu'utilise un nombre croissant de collectivités au moment même où il y a une volonté, évidemment, de sortir de cette situation. Il y a une volonté d'améliorer la qualité de vie, le cadre de vie dans les quartiers de la ville. Je trouve qu'il est normal qu'on fasse usage de ce dispositif. Monsieur Lefebvre.
Oui, Jean-Paul Langer ainsi que vous-même, c'est ce que je voulais dire à peu près grosso modo. Simplement une question, donc ces propriétaires vont payer la TOM maintenant ?
Pas forcément, c'est-à-dire que si... alors déjà, il faut savoir que la taxe d'habitation sur les logements vacants ne sera pas due si les contribuables touchés font une réclamation auprès des services fiscaux. En l'occurrence, s'ils peuvent démontrer que le logement est vacant indépendamment de la volonté du propriétaire, par exemple, si le logement est mis en location, évidemment, ils ne paieront pas cette taxe. Deuxièmement, si le logement est occupé plus de 90 jours de suite au cours d'une année. Troisièmement, si le logement nécessite des travaux importants pour être habitable, et il faut que les logements correspondent au minimum 25% de la valeur du logement. Ou quatrièmement, si c'est une résidence secondaire qui est meublée et soumise à la taxe d'habitation. C'est vrai que c'est mieux parce que je trouvais qu'il faisait...
Mais la TOM est sur le foncier, donc il devrait la payer. Pas sur la taxe d'habitation, c'est sur le foncier.
Ils bénéficieront de la possibilité de dégrèvement de la TOM dans les mêmes conditions que de la taxe sur le foncier bâti et si la réclamation du contribuable est faite auprès des services fiscaux. Donc si effectivement ils se trouvent dans une des hypothèses qui démontrent qu'ils sont dans l'impossibilité d'occuper ces logements, à ce moment-là, ils peuvent demander le dégrèvement et au titre de la taxe d'habitation sur les logements vacants et sur la TOM. Mais c'est à eux de faire cette déclaration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont recevoir un avis d'imposition, s'ils sont dans les cas dont les exceptions sont prévues par les textes, rien ne les empêche de demander les deux dégrèvements, un pour la taxe d'habitation sur les logements vacants, l'autre pour la TOM.
Mais si les 2000 ont un dégrèvement pour la taxe, la TOM, les calculs de la communauté seront faussés.
Non, du tout, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas. Ils n'entrent pas dans les calculs,
oui,
parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas.
De votre division des 3 millions et quelques de
Non, c'est
de
sur
déchets.
La base du nombre de... C'est sur la base, aujourd'hui, du nombre de l'assiette fiscale actuelle qui ne prend pas en considération ces logements-là. Pas d'autres questions ? Donc, sur ce rapport, avis contraire, abstention ou au contraire ? Alors, attendez, parce qu'il y en a qui disent contraire, d'autres... Alors, avis contraire, 3. Abstention, 3. Le rapport est donc adopté. Nous passons au rapport 3I qui concerne les attributions de subventions. Christine Mazzi, toujours.
Divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions auxquelles je vous propose de répondre favorablement en attribuant les sommes qui sont énumérées dans le rapport en votre possession.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Avis contraire. Abstention. Le rapport est à deux abstentions. Le rapport.
Promotion commerciale de
Paris. Oui.
D'accord.
Pareil chez nous.
Donc, attendez, donc il y a juste... tout le monde est d'accord sur tout, sauf sur la première subvention.
Oui.
C'est ça ?
Non, non, sur la participation aux féeries de Noël.
Ah oui, attendez, on ne peut pas non plus...
De 29 000 euros.
Je veux bien qu'on fasse un vote séparé pour les vitrines des Pernets, mais pour la totalité des vitrines épernées, parce que si on commence à rentrer dans le détail...
Bon, alors c'est pour la première partie.
Donc. Pour la, donc la fédération pour la promotion commerciale épernée, voilà. Les vitrines épernées.
Est-ce qu'on a un détail de ce qui va être fait? Participation féerie de Noël, qu'est-ce qu'ils vont faire avec...
Eh bien, c'est la patinoire, c'est toute l'animation habituelle.
Mais à part la patinoire,
est-ce qu'on a le programme?
Un détail des animations qu'ils vont faire.
Bon, non, mais on va vous communiquer les éléments. Nous n'avons pas encore le programme prévisionnel détaillé, puisqu'il y a un certain nombre de projets qui sont prévus cette année qui n'existaient pas l'année prochaine, mais on vous le communiquera quand on aura le document officiel. Alors, donc, si je comprends bien, à l'exception de toutes les autres associations, on met de côté les vitrines d'Épernay. Et pour les vitrines d'Épernay, qui vote contre ? 3 ? 4 ? 3 ? 4 ? 3 ?
Abstention.
Alors, donc, 2 contre, combien d'abstentions ?
3.
Les autres votent pour, et pour les autres associations, il n'y a pas de difficulté.
Oui, j'aurais voté.
Merci. Nous passons au rapport 4A, Abida Sharif.
Merci, Monsieur le maire. Je vous propose d'approuver l'attribution à un candidat d'un complément de bourse au permis de conduire de la somme de 200 euros. Donc, il a la dernière commission, il a 1 000 euros. Il a passé son permis, donc il n'a pas pu l'avoir. Il a besoin de quelques heures pour finir son permis. Donc, on a le droit de lui donner encore ces 200 euros pour qu'il puisse le finir.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4B.
Magali.
C'est Pierre Marandon qui va exposer ce rapport en lieu et place de Magali Carbonel.
Bien, merci Monsieur le maire. Permettez-moi de vous présenter au nom de ma collègue Magali Carbonel, empêchée ce soir, l'avenant au contrat enfance et jeunesse passé avec la caisse d'allocation familiale. Celui-ci permettra de bénéficier de nouvelles subventions, premièrement dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires afin de financer en partie le salaire des deux coordonnateurs périscolaires. Et deuxièmement, dans le cadre des actions de soutien à la parentalité, afin d'apporter une aide supplémentaire à la maison de l'enfant, la passerelle, qui accueille à ce titre des enfants et des parents.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Toujours Pierre Marandon. Rapport 4B.
C'est Christine.
Je prends le relais de Pierre pour présenter la délibération de Magali qui concerne les frais de scolarité des élèves qui sont scolarisés dans les écoles publiques des Pernets. L'article L212-8 du Code de l'éducation dispose que les communes de résidence participent aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques situées sur une commune extérieure et qui accueillent des enfants domiciliés sur leur territoire. Il convient donc de fixer la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques pour l'année scolaire 2015-2016, à savoir 2188 euros pour un élève qui est scolarisé en maternelle et 874 euros pour un élève scolarisé en élémentaire.
Merci. Des questions ? C'est un rapport habituel, hein, nous le votons par définition tous les ans. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5A. Christian de Mongin.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, eh bien, là aussi, c'est une délibération qui vient tous les ans. Vous savez que depuis 1998, il y a un concours de cordes qui se tient à Épernay et la ville d'Épernay attribue un prix au lauréat. Je vous propose donc d'attribuer la somme de 1 000 euros au lauréat du concours de cordes qui aura lieu les 1er, 2, 3 décembre prochain, consacré à la contrebasse cette année.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Ce sont les rapports 5B1 et 2 qui concernent Christian de Mongin et des conventions de partenariat entre la ville et le Salman Azhar.
Dans le cadre de la convention entre la ville et le Salman Azhar, dans le cadre des spectacles qui sont dans le cadre de Épernay Spectacle, je vous propose d'approuver les projets de convention qui concernent deux spectacles qui entrent dans le cadre d'Épernay Spectacle. c'est-à-dire un spectacle qui sera donné mardi 11 octobre, Ancien malade des hôpitaux de Paris, par Olivier Saladin, et un deuxième, Sophia Aram, Le fond de l'air effraie, le mardi 22 novembre 2016. Voilà.
Merci. Des questions ? Monsieur Klein, je vous sens dans les starting blocks.
Oui, bon, pas plus que ça, mais... Bah, déjà, la subvention pour Sophia Aram, ça va être contre. Et puis,
vous
moi, je m'inquiète...
Pas Sophia Aram ?
Non, franchement, je n'ai pas... Non, mais, oui. Mais, moi, j'espère que la prochaine fois, la prochaine rentrée, il faudra inviter Dieudonné, ou un truc comme ça, que tout le monde puisse rire un petit peu.
Si ça vous fait rire, tant mieux pour vous, mais moi, ça ne me fait pas rire.
Bah, oui, bah, moi, Sophia Aram, ne me fait pas rire.
De tout, mais pas avec n'importe qui.
Ah, bah, voilà, ça, c'est sectaire.
Non.
Si. Non, parce que déjà, Stéphane Guillon à la dernière rentrée, la Sophia Aram, l'année prochaine, c'est qui ?
Ben, ce sont des humoristes qui tournent en France, dans
ça,
la France entière,
bien ce qu'on va trouver d'ici là.
Qui font tous sale comble en général et qui ont plutôt du talent. Alors on partage non, ou pas on partage ou pas leurs idées.
Non mais excusez-moi, Sophia Aram, elle a plus de talent.
Comment ?
Elle a plus de talent, Sophia Aram.
Elle n'a pas de talent, Sophia Aram.
Elle n'en a plus.
Mais venez la voir, vous jugerez
elle
après.
Elle a été virée de la télé, elle a eu la...
Non mais attendez, si être virée de la télévision... C'est manqué de talent, autant dire qu'il n'y en a plus beaucoup parce qu'au fil des décennies, il y a eu quand même un certain nombre de virées de la télévision.
Non, Dibat, elle ne faisait plus rien, de toute façon. Elle a eu son petit Gérard aussi.
Si Sophia Aram n'avait pas de talent, comme vous dites, il n'y aurait peut-être pas besoin de donner des subventions pour la faire venir parce que généralement, ceux qui n'attirent pas n'ont pas des cachets qui demandent des subventions.
Ça dépend.
Et j'ajoute qu'à la différence de Dieudonné, elle n'a pas été condamnée par la justice.
Ah, elle était partiellement condamnée par le CSA. Bon.
Enfin, si vous préférez Dieudonné, en tout cas, ce n'est pas Épernay qu'il faudra...
Ah non, moi, je prépare pas. Non, mais c'est pour que vous... Il faut que ça gratte un peu aussi chez vous, de temps en temps.
Ah bah, rassurez-vous, je pense que Sophia Aram, tout le monde en prend pour son matricule. Hein. Je n'ai pas le sentiment que ce soit systématiquement contre un mouvement politique ou un autre. Je pense qu'il faut savoir accepter la critique, la caricature.
Oui, bien sûr.
On a eu... J'ai souvenir d'avoir eu des humoristes qui sont venus ici avec un ton assez décapant et tout le monde en a pris pour son grade. Et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on vit dans une démocratie où on peut s'exprimer librement sur les responsables qui nous gouvernent.
Mais enfin, bon, je trouve qu'ils sont bien choisis, ceux-là. Mais par contre, alors, j'en reviens aux subventions. Moi, j'aurais préféré l'inverse, quand même. 4 500 € pour l'ancien modèle des hôpitaux de Paris. Ça me paraît bien maigre. Hein.
Alors, écoutez,
c'est proportionnel au coût du spectacle.
Voilà, c'est relativement simple. Épernay Spectacle reçoit une subvention annuelle de 22 700.
Ça, c'est le reliquat, vous me l'aviez expliqué.
Non, 21 200. Non, pour l'année, il y a 21 200. Ouais. Or, la saison ne correspond pas à l'année civile, vous le savez très bien. Donc, on a deux spectacles qui étaient sur la saison dernière, à savoir Stéphane Guillon, que vous avez salué, et Fellag, et sur cette année, il va y avoir les deux qui vous sont proposés. Les 21 200 sont ensuite répartis selon les besoins pour compléter ce que met le Salman Hazar, et c'est tout. Donc, pour compléter, il a fallu mettre 8 500 à Sophia Aram, je ne sais plus combien à Stéphane Guillon, et voilà, c'est tout. Ce n'est pas l'inverse qui va se faire, c'est en proportion de l'accord du cachet et de l'accord avec le Salman Hazar.
Voilà, c'est tout simplement lié au fait que pour un certain nombre de spectacles, il est difficile pour le Salman Hazar d'équilibrer ses comptes. Oui. Pourquoi ? Parce que la jauge rapportée au coût du spectacle rendrait le siège trop important. Donc la ville accepte, mais elle l'a toujours fait, d'aider le Salman Hazar sur 3, 4, 5 spectacles selon les années, permettant de faire venir des acteurs, des humoristes, des chanteurs parfois, qui ont un peu plus de notoriété et qui contribuent au rayonnement de la saison. Donc, alors on peut ne pas aimer Olivier Saladin, je rappelle que Olivier Saladin, c'était les déchiens, pas aimer Sophia Aram. L'année dernière, c'était d'autres artistes, comme l'a évoqué Christian à l'instant, mais l'idée reste la même, c'est-à-dire de contribuer par ces quelques spectacles aussi au rayonnement de Salman Hazar, qui par ailleurs, et cette année encore, a une programmation très, très éclectique et qui, à mon avis, devrait une fois encore répondre à l'attente d'un public assez nombreux.
Un dernier mot là-dessus. Dans un conseil municipal début 2017, nous aurons la même délibération, mais pour les deux premiers spectacles de l'année. Et là, vous applaudirez à demain, puisque ça va être Alain Dussolier dans André Dussolier dans Novecento et François Morel dans La Vie, titre provisoire. Titre provisoire faisant partie du titre.
C'est plus fort que moi. J'arrive à trouver une coïncidence quand même. Depuis qu'on est au conseil municipal, on trouve deux humoristes polémistes qui sont anti-FN. C'est un fait du hasard.
Il n'y a pas que qui sont anti-FN. Fort heureusement.
Non, mais c'est la ficelle, elle est grosse, quoi, je veux dire. On peut en rire. Hein, je ne vais pas pleurer non plus. Mais bon, la ficelle est un peu grosse.
Bien. Monsieur
Lefebvre. Oui. Je voudrais dire, et notamment aux élus FN, que je suis très, très heureux de la venue de Sophia Ram. Merci, merci pour ce choix. C'est la liberté d'expression et c'est, comme vous le disiez, c'est la démocratie.
Je note que vous n'avez pas dit merci pour ce moment.
Ça va dans le bon sens.
C'est la démocratie.
Bien, sur ce rapport, avis contraire, abstention. Alors, avis contraire. Ah oui, non, mais oui, on va pas commencer à. Non. Vous votez pour ou contre le rapport, avis contraire.
C'est de la misogynie, là.
Abstention. Le rapport est adopté. Nous passons ensuite à Christian de Mongin, toujours, concernant l'organisation d'une exposition Confraternité les Saint-Vincent du Champagne.
Oui, comme vous le voyez dans la délibération, c'est une exposition organisée. Qui est intitulé Confraternité les Saint-Vincent de Champagne et donc de grandes photos qui seront exposées sur les grilles du lycée anciennement Léon Bourgeois, Stéphane Essel. Il s'agit de photographies de Paolo Verzone et la ville participera à cette exposition à hauteur de 3000 euros.
Je peux préciser qu'effectivement, cette exposition sera présentée du 7 décembre au 14 janvier, c'est-à-dire qu'elle sera visible à la fois le soir des Habits de Lumière, mais également lors de la Saint-Vincent de l'archiconfrérie, ce qui permettra au public, évidemment entre les deux également, de contempler cette magnifique exposition photo. Pas d'opposition. Oui, monsieur Durançois.
Oui, rien du tout contre l'exposition, mais comme j'ai dit en commission, moi je m'inquiétais un petit peu pour la sécurité, vu que ça va être pendant 2 semaines, 3 semaines, un peu plus, sur l'espace public, sans surveillance, c'est tout. J'alerte.
Sur le jardin Luxembourg, j'allais citer l'exemple, il y a des expositions toute l'année sur les grilles du jardin Luxembourg. Oui, pas le sentiment qu'il n'y a plus de délinquants à Épernay qu'il y en a à Paris.
Je ne veux pas tirer la délinquance non plus. Vous vous souvenez de la bâche, qui a été mise au bout de 15 jours. Elle a été. Donc c'est. Oui, non, mais.
Oui, c'était une toile là.
Quand on veut dégrader, on dégrade. Hein.
Qui d'autre? Monsieur Angers.
Non, simplement, moi, je ne participerai pas au vote.
D'accord. Ce n'est pas que d'un manque d'intérêt, mais c'est votre position au CIVC qui. Je le précise pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Avis contraire? Abstention, le rapport est adopté. Nous passons à Pierre Marandon pour la labellisation et les missions de service civique, pour l'année scolaire 2016-2017.
Merci, monsieur le maire. Je vous propose de reconduire le dispositif service civique adopté par la ville en 2011-2012. Cette sixième promotion permettra d'accueillir 7 jeunes gens à raison de 24 heures semaine au sein des services jeunesse et sport, des centres sociaux et culturels, développement durable, culture, ainsi qu'à l'office de tourisme. Ils y accompliront pendant 8 à 9 mois des missions innovantes d'intérêt général au service de la collectivité. Les jeunes ambassadeurs retenus percevront une indemnité mensuelle de 573,65 € qui va être valorisée prochainement, dont 106,31 € à la charge de la ville et bénéficieront d'une formation civique et citoyenne et d'un accompagnement assuré par nos services. À titre de la formation, nous avons déjà accueilli depuis 2011 33 jeunes et j'avais quelque part à l'issue de leur mission, 10 jeunes avaient trouvé un travail, un job, 9 avaient été entrés en formation, 7 ont repris leurs études, donc ça
fait 19,26 sur 33, qui est un résultat plutôt encourageant.
Merci. Des questions ? Non. Monsieur Lefebvre.
C'est une suggestion que les jeunes qui ont des problèmes d'insertion soient prioritaires dans ce recrutement pour essayer de leur mettre un pied à l'étrier.
Le problème, c'est qu'il y a donc une information qui est faite. Les jeunes sont reçus à partir de ces jours-ci. Leurs missions vont commencer au mois d'octobre et ils sont reçus par un responsable du service jeunesse et le responsable du service municipal qui a proposé cette mission. Donc après, moi, j'interviens pas sur
Non, mais déjà, voilà. C'est sur la base du volontariat.
Et c'est sur la base, bien sûr, du volontariat. Oui.
On peut regretter que certains jeunes qui soient peut-être en défaut d'insertion ne postulent pas pour ce genre de mission, parce que c'est les missions qui vont justement faciliter leur intégration par le contact avec le milieu professionnel, par une activité. Bon, mais j'ai le sentiment que pour l'instant, ça a fait ses preuves et qu'en tout cas, ces jeunes se sont bien intégrés dans nos services le temps de leur mission. Et comme l'a dit et démontré tout à l'heure Pierre, à travers les éléments statistiques qu'il vous a communiqués, le résultat est globalement positif. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 6 à Anne-Marie Legras.
Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, je vous propose d'accepter l'échange sans soulte d'un volume appartenant à la ville d'Épernay situé dans le parking du centre-ville, d'une surface au sol de 10,83 m, avec celui de Madame Crémont, d'une superficie au sol de 11,29 m. Les frais d'acte et de géomètre seront partagés à parts égales.
Merci. Bon, c'est une petite délibération, mais c'est un ajustement d'ordre juridique qui était nécessaire. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 6B. Anne-Marie Legras,
chers collègues, je vous propose de consentir à la société Enedis une convention de servitude permettant d'approvisionner en électricité par une canalisation souterraine le terrain que nous avons vendu à Notre-Dame de Bellecombe et la construction à venir. Les droits attachés à cette servitude sont détaillés dans le rapport et le projet de convention en votre possession.
Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Pas de questions ? Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Jonathan Rodriguez, rapport 6C.
Merci, Monsieur le Maire, chers collègues. Je vous propose cette délibération d'appel à projet éco-citoyen qui a été soumis au vote des Sparnassiens lors de la quinzaine du développement durable. On avait un choix d'action qui était proposé pour remplacer, en tout cas pour renouveler l'agenda 21, dont les actions qui sont finies vont sortir et seront remplacées par des nouvelles. Donc celle-ci a été plébiscitée par les Sparnassiens, donc à savoir un appel à projet éco-citoyen qui sera lancé au mois d'octobre pour les associations sparnassiennes, ou dont l'activité principale est à Épernay. Si on a un président qui habite Mardeuil ou Chouilly et son siège social est forcément chez lui, évidemment, si l'activité principale est à Épernay, l'association peut répondre à cet appel à projet. Et une fois la sélection faite de la recevabilité des projets, parce qu'il y a deux thématiques, la première en matière de développement durable et la seconde concernant la qualité de l'air liée à notre label Ville Respirable, la commission urbanisme cadre de vie examinera ces projets reçus, ces candidatures, et seront soumis au vote des Sparnassiens par le biais du site internet de la ville. Au mois de janvier 2017, et les deux projets qui sortiront les plus votés seront attribués, recevront un prix de 2 000 € pour pouvoir faire leur action. Voilà, donc il y a des conditions qui sont détaillées dans le document joint, c'est assez précis, mais voilà, c'est la volonté de faire participer les habitants au développement durable et les impliquer dans cette thématique qui est indispensable aujourd'hui. Merci. Voilà, si vous avez des questions.
Des questions sur ce rapport, Monsieur Angers.
Oui, moi, je souhaitais faire une remarque, non pas sur l'appel à projet, mais sur le développement d'une ville numérique qui est proposée dans les orientations. Moi, je voudrais quand même qu'on fasse attention à un point. Il y a un certain nombre de publications qui sortent également en ce moment sur la fracture numérique. Et qui concerne notamment, bien souvent, évidemment, des gens les plus âgés de la société. Développer le numérique, moi, je suis tout à fait OK. On essaye de s'y mettre les uns et les autres au quotidien. Mais développer le numérique, ça ne veut pas dire abandonner toute notion de service public qui ira à côté. Au contraire, je pense qu'il faut renforcer la notion de service public pour les gens qui seraient en situation de fracture. Donc je pense qu'il faut être quand même attentif à cet aspect.
Je souscris complètement à vos propos, à savoir qu'effectivement, on ne peut pas imposer la conversion numérique à tout le monde. On sait très bien qu'il y a des générations qui sont plus à même de s'y mettre que d'autres. Hein, quand on voit l'aisance avec laquelle les plus jeunes évoluent dans le cadre numérique, ce qui n'est pas toujours sans poser d'ailleurs de difficultés, quand on voit des personnes âgées ou quand on voit des personnes qui effectivement sont en difficulté en matière d'insertion, ils se voient d'emblée, pour certains d'entre eux, privés de l'accès au numérique. Donc c'est un point sur lequel nous devons continuer à travailler. Actuellement, il existe nous avons trois espaces numériques qui sont ceux des deux médiathèques, plus celui de la ferme de l'hôpital, qui accueille d'ailleurs régulièrement des stages de découverte numérique pour des personnes en situation de grande difficulté, qui accueillent également des groupes de personnes âgées. Et je pense qu'il est important d'utiliser et d'encourager la pratique du numérique dans sa bonne dimension, parce que le numérique ne peut pas évidemment résumer une vie, il ne peut pas remplacer les rapports humains, mais parfois il peut venir en soutien de rapports humains. Je pense notamment à l'isolement de certaines personnes âgées qui se trouvent habitées à Épernay, vivant loin de leur famille, et qui, par le numérique et avec des dispositifs extrêmement simples, pourraient rester en contact visuel et régulier avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, ce qu'elles ne font pas, faute d'avoir accès à ce service. Notre ambition, c'est de développer le numérique, évidemment, de faire en sorte que cet usage du numérique bénéficie à tous, et nous serons évidemment extrêmement attentifs sur ce point, parce que si le numérique remplace systématiquement un rapport humain, qui peut être celui d'un guichet de service public, qui peut être celui effectivement d'un contact personnalisé et chaleureux, c'est pas forcément toujours un gain. Donc ça vient généralement en appui. Effectivement, pour un certain nombre de démarches, ça simplifie les choses, ça permet de gagner en productivité pour nos services, ça permet de fiabiliser certains types d'informations, mais ça ne doit pas, de manière systématique, remplacer les agents qui sont au contact du public, parce qu'on sait très bien que ces agents ont une capacité d'écoute que n'aura jamais, j'allais dire, un dispositif de type numérique, et on sera évidemment très attentif à cette question. Oui, je rappelle également que la dimension numérique est importante pour l'économie locale. Vous avez parlé tout à l'heure du développement économique. Il est important aussi que là-dessus, on puisse se positionner pour faire en sorte qu'en termes de réseau, qu'en termes de qualité des débits notamment, nous soyons performants. Et ça me donne l'occasion de parler en deux mots du plan numérique régional, qui est une très forte ambition qui est exprimée par le nouveau conseil régional, qui vise à doter les 10 départements. Alors certains sont déjà partis en avance, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont déjà dans la phase de déploiement de la fibre optique partout. C'est pareil pour le département de la Moselle, qui a adopté un dispositif très ambitieux en la matière. Pour les 7 autres départements, il est proposé, en lien avec les départements ou leurs syndicats départementaux, c'est le cas dans le département de la Marne, un plan ambitieux visant à doter chacun des habitants d'un accès à la fibre optique, ce qui permettra évidemment demain l'offre la plus étoffée de services, pouvant aller jusqu'à la télémédecine, enfin toute une série de disciplines qui se développeront parce que les contenus vont évoluer à grande vitesse. Maintenant, encore une fois, le numérique ne remplacera jamais la qualité d'un rapport humain, et de ce point de vue, il faudra rester vigilant.
Oui, c'est vrai que ce sont des exemples de projets qui vont être présentés, mais évidemment, si une association veut travailler à cette question-là en disant, voilà, on va trouver, lutter contre la fracture numérique, ça peut être un projet qui pourrait être déposé si une association... Et après, le choix sera fait. Mais je crois que c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui, médiathèque, ferme de l'hôpital. Je sais que, enfin, je crois que Candy pourra en dire plus, mais au pôle animation senior, il y a aussi des animations qui sont faites en direction des personnes âgées pour leur apprendre et leur faciliter la vie numérique, je dirais. Voilà. Alors, donc, on fera aussi pour que la communication passe bien. Vous voyez, on n'est pas que dans le numérique, mais on va informer pour que les associations le sachent rapidement et profitent des 2 mois pleinement pour réfléchir à un projet. Dès la semaine prochaine, on va envoyer un courrier. Alors peut-être sera-t-il aussi numérique, en partie, je ne sais pas, mais aux associations pour leur dire que ce type de projet existe et qu'elles peuvent y répondre naturellement.
Monsieur Richard.
Merci, monsieur le maire. Au risque de répéter un peu ce qui a été dit, mais de compléter, c'est concernant la fracture numérique et, je dirais, le développement du numérique et son corollaire, à savoir la dématérialisation. C'est qu'on assiste, et des études ont été faites récemment, qui ont été publiées dans la Gazette des communes, où la dématérialisation, avec le développement du numérique, ce qui peut se comprendre, accentue la ségrégation et met plus encore en difficulté ceux qui étaient déjà en difficulté. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des personnes âgées. Hein ? On ne parle pas seulement des personnes âgées qui, compte tenu, etc., et en même temps, on voit des papis et des mamies, hein, si vous me permettez l'expression, aller là-dessus sans aucun problème. Enfin, en tout cas, avec plus facilité que moi, même si je suis un papy. Et donc, il n'en demeure pas moins que le plus important, et c'est ce que je voulais dire, et j'en aurais terminé, à savoir qu'il y a une accentuation et une mise à l'écart, entre guillemets, de fait, des personnes qui sont déjà à l'écart. C'est-à-dire, en fait, on va dire les plus pauvres, entre autres, de notre société, quoi, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'on ne peut pas être contre le développement du numérique. Mais faisons attention aux, je dirais, dégâts collatéraux qui accentuent des fractures déjà existantes.
Bien sûr. C'est vrai que, bon...
Je partage, c'est votre point de vue, parce qu'effectivement, mais ça pose notamment le problème du rapport à l'écrit, et du rapport à tout ce qui est formulaire administratif. Parce qu'on se rend compte, et je le vis personnellement, qu'un certain nombre de personnes, notamment, ne sont pas en mesure de comprendre les courriers qui leur sont adressés ou par des administrations, ou par des banques, ou par des assureurs, qu'ils se trouvent à la suite de ça lésés dans leurs intérêts, et a fortiori quand tout ça se transmet de manière dématérialisée. Mais déjà sur la papasserie, on se rend compte aujourd'hui, et je pense que c'est le résultat d'une progression du nombre de personnes qui ne sont pas en mesure de lire ou d'écrire ou de comprendre en tout cas ce qui leur est écrit. Il y a beaucoup de gens qui n'ouvrent même plus le courrier et qui se retrouvent à comparaître devant des tribunaux sans savoir ce qu'on leur demande parce que leurs carences les ont amenés à s'éloigner de toute forme de compréhension de cette paperasserie qui prend maintenant une forme numérique parfois, mais qui préexistait sous forme de courrier, de formulaire et autres. Et je pense qu'on a eu une réunion tout à l'heure ce midi. J'ai demandé d'ailleurs à ce qu'on fasse le point sur les activités associatives qui existent à Épernay ou portées par le CCAS notamment, concernant tout ce qui est précisément cette notion d'écrivain public, de compréhension par les habitants des difficultés des documents qui leur sont envoyés, parce que le fossé, il existe à ce niveau-là. C'est vrai qu'il touche sans doute statistiquement plus les personnes qui ont des difficultés personnelles, des difficultés sociales parfois, et il ne faudrait pas, et je vous rejoins là-dessus, que le numérique vienne encore accroître ce fossé. Donc il y a toute une réflexion, mais là, je veux dire, c'est une vraie difficulté de la société aujourd'hui, on n'en parle sans doute pas suffisamment, c'est qu'on a un certain nombre d'habitants qui décrochent, ne bénéficiant pas des acquis fondamentaux en matière de lecture, de compréhension, d'expression écrite, ne sont pas en mesure de se défendre ou en tout cas de faire valoir leurs intérêts, ce qui évidemment peut les pénaliser très, très fortement, sans compter qu'un certain nombre de professionnels profitent ou abusent parfois de cette situation. Donc je pense qu'il serait intéressant qu'on fasse ce constat. Il sera sans doute fait dans le cadre du travail qui va être entrepris par le CCAS au niveau du repérage des besoins sociaux, parce qu'évidemment, la difficulté existe aujourd'hui. Si demain tout passait de manière numérique, elle ne ferait que s'accroître. Donc à nous d'être vigilants là-dessus, et je pense que le CCAS sera très prochainement saisi de cette question. Et je demanderai d'ailleurs au CCAS qu'il nous fasse un compte-rendu en conseil municipal pour que tous les élus soient informés de cette question. Pas d'autres questions ?
Non, juste repréciser, bon, évidemment, c'est une des thématiques qu'on peut avoir, mais on en retrouve les trois piliers du développement durable, le social, l'économie et l'environnement. Donc on a ces trois piliers. Et sur la qualité de l'air, c'est vraiment spécifique au label vie respirable qu'on a obtenu, dont on devrait pouvoir vous présenter une convention signée avec l'État, enfin assignée avec l'État au prochain conseil municipal de novembre. Et donc c'est spécifique sur la baisse des dioxydes d'azote et des particules fines. Voilà, très précis, mais je pense que c'est intéressant qu'on puisse avoir des projets citoyens dans cette question-là.
Merci. Avis contraire sur ce rapport ? Abstention, le rapport est adopté. Rapport 6D, ça concerne la convention relais éco-école. Toujours Jonathan Rodriguez.
Oui, merci. Vous le savez, depuis quelques années maintenant, la ville d'Épernay a engagé le déploiement du label éco-école auprès des écoles, évidemment, d'Épernay. Et en plus, comme ce label est réservé aux écoles maternelles, aux écoles élémentaires, au collège et au lycée, nous avons voulu aussi récompenser les écoles maternelles qui s'engagent dans cette voie, et c'est pour ça qu'on a créé un label municipal qui s'appelle les petits éco-sparnassiens. Donc pour ce qui est du label éco-école, c'est un dispositif international qui existe avec des critères assez spécifiques. Et on a déjà l'école Belnou qui est engagée dans ce dispositif depuis maintenant 3 ans. Et puis on a aussi le collège Côte-le-Gris qui va s'engager aussi grâce à ce dispositif dans cette démarche. Donc il nous a fallu, puisque nous sommes moteurs dans ce dispositif, signer une convention avec l'organisme national, et on aura donc notre nouvelle collaboratrice Isabelle Bénard qui sera chargée d'animer ce réseau et d'être le relais local pour les écoles d'Épernay. Alors évidemment, si on est sollicité par nos voisins des villages alentours, on pourra aussi les orienter, les indiquer un petit peu. Mais notre mission, c'est plutôt d'être sur les écoles et établissements scolaires qui sont sur le territoire d'Épernay, que ce soit collège, lycée, école privée ou école publique, évidemment. Puisqu'on a des écoles, quelques écoles, dont je n'ai pas la liste, mais qui se sont manifestées. Et je pense que d'ici le mois prochain, on aura 2 écoles supplémentaires dans le dispositif éco-école. Voilà. En tout cas, ils sont en réflexion active là-dessus. Et il nous s'agit de signer cette convention qui est sans condition onéreuse, mais qui fixe les engagements des uns et des autres.
Merci. Je voudrais en profiter pour tirer un coup de chapeau aux écoles aux écoles maternelles qui sont vues décerner le label Petits Éco-Écoliers, c'est ça ?
Petits Éco-Sparnassiens.
Petits Éco-Sparnassiens. Parce que d'abord, en maternelle, ce n'était pas évident de se lancer sur le sujet. Mais le travail qui a été fait, je pense à Préaucoude ou je pense encore à l'école maternelle Belnou, a été tout à fait remarquable. Et ça prouve que l'environnement, le développement durable d'une manière générale peut être un formidable terrain pédagogique pour les plus jeunes. Et j'invite évidemment toutes les écoles primaires, élémentaires, à postuler à ce label, parce que ça peut être aussi, le développement durable peut être un extraordinaire support pédagogique, qui plus est, on a un certain nombre d'expériences qui ont été engrangées depuis quelques années dans la matière, et c'est évidemment quelque chose qu'il nous faut encourager.
C'est vrai que toutes les écoles qui se sont engagées dans le dispositif-là, que ce soit éco-école ou les petits éco-sparnassiens, renouvellent l'opération la nuit suivante, parce que finalement, une fois que le pli est pris, ça marche bien. Nous, on a évidemment avec le service développement durable et tous les services, qu'ils soient municipaux ou de la communauté de communes, de très bonnes relations pour donner des indications, pour aider les écoles à trouver des partenaires, des activités, des solutions. Donc ça marche assez bien. Et puis bon, on a un directeur qui peut peut-être nous donner un témoignage de terrain.
Merci Jonathan. Oui, donc l'école Belnou, dont je suis le directeur, s'est engagée dans le dispositif éco-école maintenant depuis 3 ans. On a été labellisé sur des thématiques du déchet, de l'énergie. Cette année, nous travaillerons sur la notion de biodiversité. L'entrée citoyenne éco-école est fort intéressante pour tous les établissements scolaires. Et dans l'époque un peu troublée que nous vivons, la citoyenneté est au cœur du message de l'éducation nationale. Et il m'a semblé dès le départ pertinent d'engager l'école dans cette démarche. Maintenant, j'essaye d'inciter mes collègues de s'engager également de façon à ce que...
Collègues directeurs d'école ou collègues à l'intérieur de l'école ?
Pardon ?
Collègues à l'intérieur de l'école ou collègues directeurs d'école ?
Les directeurs des D'accord. autres écoles, quand je suis en conseil d'école, hein, j'essaye de faire vertu d'exemple. Voilà. Maintenant, l'importance du dispositif éco-école, c'est que la prise de conscience doit se faire non seulement pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, ainsi que le personnel municipal qui intervient dans les écoles, le périscolaire et également les parents. Voilà. Donc c'est vraiment une opération fort intéressante et je remercie M. Rodriguez d'avoir engagé la ville dans cette opération.
Merci. Oui, M. Richard.
Oui. Excusez. Oui, j'ai juste une question à poser. Je suis allé voir ce que c'était que l'Office français de la Fondation, alors comme aurait dit le général, ce machin européen, là. Et j'aimerais savoir si ça s'appelle encore comme ça, parce que j'ai trouvé deux dénominations. L'une, c'est Office français Fondation éducation environnement. L'autre, Terre agir, etc. Alors, voilà. Avoir une précision sur quels sont les responsables, les vrais responsables de cet office français. Bon, à l'origine, je sais que c'est un ancien sénateur UMP, maire de Verrières-les-Buissons, ancien conseiller général, etc.
Il était centriste, c'était pas UMP.
Pardon ?
Il était centriste, c'était pas UMP, mais ça n'a rien à voir.
Ben, s'il est indiqué
faut
comme
pas
ça dans le.
Alors, les centristes, ils sont presque c'est... UMP en ce moment. Ah. Non.
Je vais.
Bah, moi, il y en a encore par rapport au parti.
Ah, je voudrais finir. Bon, moi, je suis.
Peu importe à l'ailleurs.
Mais... Non, je suis allé voir ce qui était sur le site. Hein, voilà. Et pour reprendre quand même quelqu'un que vous aimez bien, M. Werth, qui disait que le centre est à droite. Donc, je ne veux pas me disputer là-dessus, moi. Donc. Non, c'était savoir quels étaient les... quels sont ? Est-ce qu'il est toujours, ce monsieur ? Est-ce que ça a changé ? Parce que il semblerait qu'il y ait eu une modification, mais voilà, c'était une précision que je souhaitais obtenir.
Le président, c'est toujours lui. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, le nom est encore l'Office français FEE, mais il va changer de nom, mais là, on va signer la convention avec celui-ci. Après, ça se trouvera qu'on est un avenant, parce que le nom va changer. Ils vont s'appeler Terre Avenir ou Terre Agir. Interagir, c'est ça. Et donc ça va changer, mais c'est pas encore fait. Mais donc, vos informations sont bonnes, mais c'est en cours. Voilà. On va signer la convention avec cette entité-là qui changera de nom ensuite. Voilà.
Merci. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Il nous reste le rapport numéro 7 concernant les décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions ? Monsieur Klein.
C'est au sujet de la 66, l'animation des habits de lumière. Moi, il m'étonne qu'il n'y ait pas une commission qui soit faite pour ça, parce qu'on regarde la somme de 180 276,47 € au total, et que vous soyez seul à prendre ces décisions.
Oui, je pense que la commission est tenue informée de ce
oui,
programme.
Informé,
hein, c'est le programme
oui,
qui est effectivement...
Informé, mais ça, je pense qu'on pourra en discuter quand même. Là, c'est être mis devant le fait accompli, mais...
Oui, bah, on est sur
les...
Il
n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a aucun débat.
Comment que... Non, il y a une présentation qui est faite...
Oui.
Des différentes troupes et de leur
spectacle. Vu l'importance de la somme, moi, je pense que ça devrait se travailler. Ça.
Vous voulez nous proposer Dieudonné ?
Non, mais...
Non, mais je veux dire par là que... je vais vous expliquer la situation. Elle est pas... Elle est relativement simple et en même temps assez compliquée.
C'est
pourquoi ?
Comme
parce que les troupes qui se produisent à cette période de l'année, en plein mois de décembre, sont beaucoup moins nombreuses que celles qui peuvent se produire en été. En plus, toutes les troupes... connus et qui ont les compétences pour pouvoir intervenir au milieu d'une vingtaine de milliers de personnes sur l'espace public ne renouvellent pas leur spectacle tous les ans. Donc, c'est assez compliqué pour le service communication de trouver. Ils y mettent, ils travaillent pratiquement un an à l'avance des troupes qui seront en tour, enfin qui se produiront un an après au mois de décembre, qui auront produit de nouveaux spectacles et que ces spectacles seront compatibles avec les caractéristiques de la nuit de Champagne. Donc moi, ce que je demanderais, c'est effectivement au service de venir présenter à la commission le choix qui a été fait et pourquoi ce choix a été fait. Mais absolument impossible de faire autrement. Pourquoi ? Parce que c'est un travail de programmation. C'est comme la saison du Salmanazar. Il appartient au directeur du Salmanazar de proposer une programmation en fonction de l'orientation qu'il veut donner à sa saison, donc globalement.
Ah, parce qu'il donne une orientation à sa saison. Mais
bien
c'est
sûr,
du four.
Bien sûr. Merci. Chaque année, vous remarquerez qu'il y a...
On a remarqué.
Non, mais il y a des spectacles classiques, il y a des spectacles contemporains, il y a de la musique, il y a du chant, il y a... Du spectacle pour enfants, il y a du cirque.
Et puis de la polémique politique, on a remarqué tout ça.
Donc il y a une programmation, c'est prendre en considération l'attente des différents publics. La contrainte que nous avons sur les habits de lumière, c'est que ça doit se passer en plein hiver, ça doit se passer sur une avenue, au milieu de tout le monde, donc visible de loin, ça doit être renouvelé chaque année, et tout ça conduit le service à proposer chaque année une programmation. Donc cette programmation vous sera présentée en commission, évidemment, il n'y a pas de mystère là-dessus, mais pensez bien qu'on ne peut pas non plus faire un appel à projet pour ce genre de choses au sein des compétences qui peuvent exister au sein des conseils municipaux, parce que c'est déjà extrêmement difficile de trouver des troupes qui disposent des références pour pouvoir intervenir sur une scène un peu particulière puisqu'elle fait 1 km de long et tout ça en plein hiver.
Merci pour l'explication.
D'autres questions ? Monsieur Angers.
Oui, monsieur le maire, chers collègues. 69 décisions. En face, ce soir, 18 délibérations. Parmi ces 18 délibérations, une bonne douzaine de techniques sur lesquelles il n'y avait pas grand-chose à dire. Donc 5-6 délibérations sur lesquelles nous avons eu à nous creuser un petit peu les méninges. Je crois qu'avec cette technique de travail, monsieur le maire, vous pouvez féliciter votre opposition de gauche, celle de gauche, bien entendu, pour pouvoir animer de la sorte les débats de conseils municipaux avec le peu de matière que vous lui fournissez. Eh bien, chapeau, chers collègues de gauche.
C'est un peu du cinéma, comme ça dit. On applique une délibération qui a été votée en début de mandat. Il se trouve qu'il y en a plus cette fois-ci. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 3 mois sans conseil municipal à cause des vacances. Moi, je veux bien faire un conseil au mois d'août, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le quorum. Troisièmement, quand vous regardez les décisions qui sont prises, si je prends la page 9, donc en face de la page qu'on vient d'évoquer sur la 66, on a des délibérations qui vont concerner des locations de salles à titre gracieux pour la somme de 36 euros. Pour 51 euros, pour... je veux bien qu'on passe tout ça en conseil, mais à ce moment-là, il faut prévoir le dîner et probablement qu'on terminera à 3 heures du matin à chaque séance du conseil. On procède à Épernay, comme dans toutes les collectivités territoriales. Il y a partout une délibération fondée sur l'article L 2122 qui permet effectivement de faire passer toute une série de décisions qui, pour autant, sont toujours présentés au Conseil dans le cadre de ce rapport. Ce n'est pas des décisions qui sont prises en catimini et dont personne n'est informé, puisqu'on est tenu de rendre compte, et vous ne vous privez jamais, d'ailleurs, de poser des questions sur ces rapports. Donc on ne peut pas dire que ce soit des rapports qui échappent à la vigilance des élus de l'opposition et du Conseil municipal, puisque vous faites usage de votre possibilité d'intervention à chaque séance du Conseil. Alors c'est vrai que celle-ci est un peu plus élevée que d'habitude, et le Conseil est peut-être un peu moins épais que d'habitude, parce que on va rentrer dans une phase budgétaire où on aura sans doute en novembre, en décembre et des conseils un peu plus importants, mais il n'empêche que la transparence est là. Monsieur Richard.
Au-delà de la forme évoquée par Jean-Paul, il y a quand même un problème de fond sur le fonctionnement. Il y a une commission d'appel d'offres à la ville d'Épernay. Elle se réunit très rarement. Alors quelquefois, il y a des sujets qu'on discute un peu. Mais en même temps, sans du tout que ça passe par la commission d'appel d'offres, et je sais que vous nous direz que c'est légal, il n'en demeure pas moins qu'à différentes... Là, je vois une société, depuis avril 2014, elle s'est vue attribuer, pas distribuer, hein, attribuer 5,5 millions pour des travaux, bien évidemment. L'autre, 5,7 millions. Bon, je ne vais pas faire... parce que comme j'ai un petit peu de temps parfois, je relève tout ça. Or, la commission d'appel d'offres, elle ne sert à rien, quoi. Grosso modo, elle ne sert pas à grand-chose. Donc, sur le fond, ça pose un problème de participation. Je ne parle même pas de démocratie participative à l'échelle de la localité. Je parle simplement de démocratie au sein du conseil municipal et de la manière dont on fonctionne. Et cela, on ne peut pas, bien évidemment, le cautionner. Voilà. C'était au-delà de la forme, il y a le fond.
Je ne partage pas du tout votre sentiment, puisque vous avez dans ces rapports tous les éléments d'information concernant le montant des marchés, concernant l'identité de l'entreprise, sa localisation, pour pouvoir nous interroger. Alors, si vous souhaitez qu'en plus, moi, ça ne me dérange pas qu'en cours de réunion de commission d'appel d'offres, on puisse évoquer ces listes-là. Ça ne nous empêchera pas de le mettre au sein du conseil municipal suivant, puisque c'est une obligation. Donc, si vous souhaitez qu'en plus des réunions de la commission d'appel d'offres, on évoque les marchés qui sont là, moi, pour moi, ça ne me pose aucune difficulté. Ce que je souhaite, c'est la transparence et la preuve, vous l'avez. Donc, si vous voulez qu'on le passe en commission d'appel d'offres plus en conseil municipal, moi, ça me va parfaitement. Encore une fois, il n'y a rien à cacher. Tout ça est public, tout ça est contrôlé.
Il est quand même assez remarquable pour un politicien de votre qualité.
Je ne sais pas comment je dois interpréter le qualificatif.
À votre convenance, je n'ai pas de souci. Et il n'y a rien d'insultant dans mon propos. Mais pour un homme politique de votre qualité, ça vous convient mieux ?
Je préfère que plutôt que politicien. Parce que
vous êtes un politicien.
Je me bagarre assez contre les
gens qui vivent de la politique, pour moi, sont des politiciens quelque part. Donc, moi, j'estime que j'en suis pas un. Et à savoir que ce n'est pas la question d'être informé, c'est la question de participer au choix, même si on sait que majoritairement, les choses, elles seront comme la majorité le souhaitera. Mais c'est d'être associé, c'est de participer, y compris parce que on a la faiblesse de croire que dans certains domaines, on a, d'une part, ça nous semble normal d'avoir ces informations, de participer, et la faiblesse de croire que, quelquefois, on peut être aussi de bons conseils, entre guillemets. Voilà. Mais comme ça ne se passe pas comme ça...
Mais vous...
Voilà, mais je ne parlais pas de l'information.
Non, mais vous reconnaîtrez vous-même que nous, en agissant de la sorte, nous respectons scrupuleusement les textes tels qu'ils sont prévus. Mais oui. Comment ? Mais ce qui est légal n'est pas forcément immoral aussi. C'est parfaitement. C'est la pratique.
Je vous laisse la responsabilité.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur différents points,
bon, juste un peu d'humour sur la 20. Je retrouve M. Christian Moitier, qui n'est pas le concubin de M. Moitier. Il a déjà eu une occupation exceptionnelle, à titre temporaire exceptionnel.
Oui, je pense qu'ils sont déjà, en fait... c'est un renouvellement ? C'est un renouvellement de convention. C'est un renouvellement de convention. Donc, celle-là, je ne sais pas depuis combien de temps Christian Moitier ou Olivier de Bâtonnet, celle en dessous, sont dans ce logement-là, mais c'est un renouvellement d'une année sur l'autre. Ce sont des logements qui sont au bout de la cour de l'école Langevin. C'est le bâtiment qui est en bout de cour et qui traditionnellement héberge des employés municipaux parce que précisément il y a la proximité avec cette cour qui fait qu'on n'a jamais souhaité vendre ce bâtiment, qu'on a toujours voulu le garder dans le périmètre de l'école et donc dans le périmètre municipal. D'accord. Pas d'autres questions ? Bien, bah écoutez, l'ordre du jour est épuisé. La date du prochain conseil, c'est 16 novembre. 16 novembre, et on a une commission plénière jeudi soir, qui est une séance de travail, comme on en a déjà eu, sur le PLU, l'état d'avancement du PLU, ce jeudi. Il n'y a pas de délibération, c'est pas un conseil, c'est une... Non, c'est pour le coup, c'est on a besoin de votre avis sur un certain nombre de choses, mais l'avis sera pris en conseil municipal, évidemment.
C'est privé, hein.
Comment ?
C'est privé.
Ah, bien sûr.
Nous, le schéma d'aménagement, on l'est. Je suis sur le bébé.